Bonjour David, bonjour à tous.
La mobilisation des agriculteurs hier en début d'après-midi à Bressuire en attendant les annonces du Premier ministre.
Les automobilistes et les chauffeurs routiers devaient simplement patienter quelques minutes, le temps d'apercevoir les drapeaux de la Confédération paysanne qui, après mêle dans la matinée sur le marché, avait choisi le très fréquenté rond-point qui dessert la Nationale 249, la route de Poitiers et l'hôpital de Félabès pour un rassemblement convivial afin d'échanger éventuellement avec les consommateurs sur la situation des agriculteurs. Pour la Conf, un revenu issu de sa production agricole doit être garanti. Les traités de libre-échange doivent cesser. Les solutions viennent de l'agriculture paysanne. Jean-Fabrice Mimot est éleveur et arboriculteur à Saint-Pardoux et ce dernier fait de la vente directe.
Un salaire pour tous les paysans, donc un salaire digne par rapport à leur travail, parce que ça c'est catastrophique de voir des paysans qui crèvent la faim de nos jours. Et le deuxième point qu'on dit, on veut un arrêt du libre-échange, parce que c'est pas normal que deux pays nous envoient toutes sortes de marchandises et cassent le marché. Et si on est là, c'est pas pour faire bloquer un rond-point, c'est pour dire aux gens, attendez, nous on est là pour vous nourrir, quoi. On n'est pas là pour détruire la planète ou autre, on est là pour vous nourrir sainement. Et le but c'est de vivre de notre métier et de vendre nos produits. Donc moins on aura d'intermédiaires, plus on vivra.
Ouais, parce qu'on le voit, l'une des clés du problème, c'est la loi Egalim, là, qui n'est pas respectée. Bon, ben, quand on fait de la vente directe, on n'a pas ce souci-là.
On n'est pas dans la loi Egalim, donc on pense à nos collègues paysans qui sont dans ces lois-là. C'est sûr qu'en vendant nos produits, on est plus fort, quoi. Le paysan est fort quand il vend son produit. Donc les heures, on en fait. Mais après, on est satisfait parce que le consommateur en face, il nous le rend bien.
Et puisque ce mouvement dépasse le cadre habituel des mouvements syndicaux, la Conf avait convié les non-syndiqués à les rejoindre sur ce rond-point. Et c'est ce qu'a fait Gontran Aumont, éleveur de volailles à Bray-Chaussée, qui pointe notamment du doigt les accords Union européenne-Mercosur, ces accords de libre-échange qui favorisent les exportations européennes de produits transformés et d'automobiles, par exemple, et les importations sud-américaines, notamment de viande. Gontran Aumont.
On est tous présents dans les manifs parce que y a pas que les gars syndiqués qui ont des problèmes. Hein. On a tous des problèmes de trésorerie, de choses. Et puis ras-le-bol que nos câbles de qualité soient pas respectés avec des importations qui viennent du monde entier sans le même respect des choses. Qu'on nous respecte jusqu'au bout avec la loi Egalim. On est des éleveurs bio, beaucoup. La loi Egalim qui est pas respectée avec plein de choses qui fait que on en a ras-le-bol. Quoi. Faire rentrer des volailles du monde entier parce qu'on a vendu des Airbus quelque part ou autre chose, au bout d'un moment ça suffit de faire des échanges à grande échelle pour faire crever nous les paysans qu'on fait de la qualité et de traçabilité depuis des années et qu'on apporte des viandes hormonées d'Argentine ou d'ailleurs et que c'est du grand n'importe quoi.
Les charges administratives pèsent énormément aussi sur le moral des agriculteurs, comme peut en témoigner le Noyobrais Pascal Merlet, éleveur bio en bovins et races menacées, comme les chevaux de trait Poitevin-Mulassier, les baudets du Poitou et les chèvres Poitevines.
Les charges et surtout les mesures administratives qui nous étranglent, malheureusement que certains en finissent par avoir des actes. C'est plus d'un agriculteur tous les deux jours qui se suicide en France à cause des démarches administratives, qu'ils n'en peuvent plus, ils n'arrivent pas à vivre de leur métier et on souhaite aussi qu'on reconnaisse notre dignité dans notre travail. Quoi. Voilà.
Ouais, sur les normes, ce que vous demandez, c'est de la simplification.
C'est de la simplification. On dépend de trop de bureaux. On dépend de la DDT. On dépend du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Intérieur aussi parfois. Il faut au minimum 2 heures par jour pour faire l'administratif. C'est pas normal. On a autre chose à faire que d'être le cul dans une chaise dans notre bureau, faire des papiers. Et tout le monde n'arrive pas à faire les papiers, malheureusement, pour toucher quoi, des clopinettes. Voilà. On veut vivre de notre travail, de nos productions et point. Voilà.
Propos recueillis par Fabien Gazot hier midi sur ce rond-point de Félabès à Bressuire occupé par la Conf, syndicat reçu d'ailleurs en début d'après-midi à la sous-préfecture et qui donne à nouveau rendez-vous devant cette même sous-préfecture de Bressuire lundi prochain. À 19h, la colère gronde toujours. Les annonces du Premier ministre hier sont insuffisantes et de nombreux sujets n'ont pas été évoqués, selon la FNSEA et les JA, qui appellent leurs adhérents à maintenir la mobilisation pour maintenir la pression. De nouvelles actions sont prévues, préviennent les deux syndicats, dès mardi prochain, 14h, sur plusieurs lieux de notre département.
Un loup pourrait avoir tué un bélier en sud de Sèvres.
Un éleveur ovin du sud-est de notre département a en effet alerté ces derniers jours la direction départementale des territoires et l'Office français de la biodiversité suite à la découverte de la dépouille d'un bélier. Les éléments relevés sur le terrain permettent de conclure à une prédation par grand canidé pour laquelle la responsabilité du loup ne peut pas être écartée, même si certaines races de chiens peuvent parfois être à l'origine de dommages assez similaires, indique la préfecture des Deux-Sèvres qui rappelle que le loup est une espèce strictement protégée en France comme en Europe. Europe.
La région Nouvelle-Aquitaine va se pencher sur l'internat du lycée de Vinci de Bressuire fermé depuis mardi.
En cause, les conditions dégradées dans lesquelles élèves et surveillants doivent passer leur nuit. Les problèmes s'accumulent avec un chauffage qui fait un bruit insupportable dans des chambres dont la température oscille la nuit entre 10 et 15 degrés seulement la semaine dernière. De plus, il n'y a pas suffisamment d'eau chaude pour les 90 internes, sans parler de l'humidité et de la moisissure. Nous évoquions hier dans nos différentes éditions des témoignages plutôt édifiants. Bref, les conditions sont indignes et les quatre surveillants ont dit stop avec l'appui des syndicats enseignants et d'une très grande partie de la communauté éducative. La région Nouvelle-Aquitaine, propriétaire des bâtiments, est donc appelée à réagir rapidement. Jean-Louis Nambrini, vice-président de la région en charge de l'éducation.
Ce que je peux dire, c'est que la semaine prochaine, et j'aurai un œil quotidien sur ce qui se fera, la société Engie doit trouver une solution aux problèmes immédiats qui se posent pour le confort des élèves. Le confort des élèves, c'est notre priorité. Leur sécurité et leur confort. Confort d'études. Il y a un problème, il faut le résoudre. Donc, dès lundi, je réunis mes équipes et nous allons voir comment réagir dans l'immédiat et puis à plus long terme. Au-delà de la gestion quotidienne, il va falloir des interventions plus profondes et au plus long cours concernant cet internat qui, si mes informations sont exactes, a doublé dans son accueil. Il y a deux fois plus d'internes qu'il y en avait précédemment.
Jean-Louis Nambrini, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, à propos de l'internat du lycée de Vinci à Bressuire, dont la situation sera étudiée de près rapidement, donc, pour que les 90 internes de l'établissement et les 4 surveillants soient hébergés dans des conditions enfin dignes de ce nom. En bref, Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, sera présent lundi 12 février au campus des métiers de Niort. Le célèbre chef cuisinier visitera les laboratoires des métiers de bouche du centre de formation de la chambre de métiers et de l'artisanat.
Après 5 semaines de travaux et de maintenance, le Futuroscope se prépare pour sa nouvelle saison.
Une 37e qui débutera le 10 février après une saison 2023 record avec près de 2 millions de visiteurs. Premier site touristique de la région Nouvelle-Aquitaine, le Futuroscope a renouvelé 40% de ses attractions ces 4 dernières années et ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Cette année, en effet, le parc présentera pas moins de 6 nouveautés, dont l'Aquascope, qui aura nécessité un investissement de 60 millions d'euros, le plus important pour une attraction depuis la création du site. Ce projet, pensé il y a 6 ans, promet le plein de sensations. Avec une superficie de 6000 m² en intérieur, ce parc aquatique très futuriste est entièrement thématisé pour une expérience immersive que l'on dit unique en France. Rodolphe Bouin est le président du directoire du Futuroscope.
C'est un tournant sur tous les sujets et une prise de risque très forte. Et on a considéré que tout ce qui gravitait autour de l'eau était quelque chose d'extraordinaire parce que ça suscite un partage en famille ou entre amis, y compris avec les tout-petits-enfants. Et on a essayé de réinventer le genre, c'est la promesse qu'on fait, en essayant d'intégrer ce que le parc du Futuroscope maîtrise en termes de technologie depuis 37 ans maintenant, pour le mettre en milieu chloré. On nous a dit que c'était pas possible techniquement, mais quand on nous dit que c'est pas possible, nous ça nous excite. L'aquascope est divisé en 3 espaces bien distincts, avec une rivière qui relie l'ensemble de ces 3 espaces-là. C'est véritablement là où on essaye de mettre des choses qui n'existent pas ailleurs dans d'autres parcs aquatiques, et où on essaye de profiter en fait de l'expertise de nos techniciens et de tout ce sur quoi on a capitalisé depuis plusieurs années. On va avoir un cinéma aquatique, on va avoir une expérience sous-marine 3D, on va avoir énormément de photonnerie, énormément d'effets spéciaux, avec des éléments de mapping qu'on a l'habitude d'utiliser par exemple pour le show nocturne, sauf que là on le met dans une boîte avec de l'eau, et donc on va pouvoir avoir ces espaces oniriques avec des programmations diverses et variées, et puis on sera en maillot de bain, donc c'est très inédit, et les premiers tests sont bluffants, et j'allais presque dire au-delà de nos espérances à cette heure-ci.
Si le Futuroscope lancera sa nouvelle saison le samedi 10 février, l'Aquascope sera accessible uniquement qu'à partir du mois de juillet. Au total, 1700 personnes pourront être accueillies en simultané et 45 maîtres nageurs ont été recrutés pour surveiller et animer le site.
En Toircey, la gestion des campings glisse vers le privé.
Il y a le camping de Thouars et celui des Adillons à Luché-Toircey. Dans ces deux cas, la collectivité envisage en effet de passer la main au privé. Un appel a d'ailleurs été lancé dans ce sens il y a peu. Tour d'horizon avec le maire et président communautaire Bernard Pénaud, qui commence par l'avenir du camping. Il est au micro-colline de Dominique Hérault.
Le camping municipal de Thouars, on parle maintenant plutôt d'hébergement de plein air digne de ce nom à l'échelle communautaire, va être entrepris. On avait il y a quelques années le projet de construire un camping de toutes pièces. Aujourd'hui, on cherche des opérateurs qui sont capables de gérer des petits campings ruraux
Alors c'est le camping actuel dans son emplacement actuel, et qui est un peu une pépite avec la rivière, c'est un truc au niveau environnement qui est magnifique, mais qui n'est pas exploité parce qu'il n'y a pas la clientèle. Donc des gens qui sont capables aujourd'hui, alors qu'on a le potentiel avec la Vélo Francette et toute l'attractivité touristique du Torçay, d'emmener de la clientèle dans ce camping. On vise un opérateur qui développera d'autres formes d'habitat, d'hébergement léger, insolite, pour donner de l'attractivité à ce lieu.
Rechercher un gestionnaire pour valoriser l'activité, c'est une alternative à une gestion municipale inefficace, mais ce n'est pas aussi simple, car deux exemples contraires viennent tempérer cette option. D'un côté, l'hébergement des Châteliers à Missé, et de l'autre, le camping chalet des Adillons. Bernard Pénaud.
Le centre d'hébergement des Châteliers a été vendu à un privé qui le développe bien, qui fonctionne très très bien, qui rend le service total, et ça c'est une réussite. Le site des Adillons, avec les 10 chalets d'hébergement et le petit camping qu'il y a, était sur le point d'être délégué à la société Aquadis, qui a jeté l'éponge, qui a arrêté pour des raisons internes. C'était aussi la même démarche. C'est pas parce que ça n'a pas marché à Duché-Torçay que ça peut pas marcher à Troyes. C'est des projets différents, et ça aurait pu marcher. On est toujours dans la même démarche, là-bas, à trouver des solutions pour faire en sorte que ce lieu puisse vivre normalement.
Bernard Pénaud, maire de Thouars et président de la communauté de communes du Thouarsay, au micro-colline de notre correspondant sur place, Dominique Hérault. En rappel, ce concert solidaire demain dimanche à Neu-les-Aubiers est proposé par plusieurs associations réunies en collectif, 100 points en bocage, la citoyenne, CCF des Terres Solidaires et le centre socio-culturel. Un concert en faveur de l'association 100 points en bocage qui œuvre pour l'accueil de réfugiés en Nord-de-Sèvres. Et c'est le trio Isa Johan qui se produira sur scène avec le spectacle Les Voyages d'Itzik, voyage musical polyphonique a cappella à la salle Belle Arrivée. Ouverte des portes demain après-midi à 15h30, le concert débutera à 16h. L'entrée est de 10 euros, un tarif solidaire est fixé à 12, un tarif petit budget à 5, entrée gratuite jusqu'à 14 ans. La ville de Niort vient de dévoiler les 4 porteurs de la flamme olympique le 2 juin prochain, sélectionnés pour leur engagement citoyen et leurs valeurs. Ces sportifs vont hisser haut à Niort les couleurs des Jeux de Paris. On y retrouve Sébastien Bichon, paracycliste, Alice Lopez, 15 ans, judoka, licencié au Dan 79, Valentin Potier, 21 ans, perchiste au stade Niortais Athlétisme, et Nathan Proust, 19 ans, lanceur de javelot dans ce même club niortais.
On en arrive, Patrice, à l'actualité sportive de ce week-end.
En football, les Chamois ont été accrochés à domicile hier soir lors de la 18e journée de National. Après un retour réussi après la trêve hivernale et cette victoire 2-0 au Mans, les Niortais se devaient de confirmer ce bon résultat lors de la réception de Châteauroux, mais face à une équipe en position de relégable, les deux Sévriens n'ont malheureusement pas réussi à trouver une solution pour déjouer cette équipe berrichonne. Au final, 0-0 au coup de sifflet final. Et ce samedi, les Chamois sont toujours 3e au classement. National 3, la réserve de Niort se déplace à Chaland alors que Chauray reçoit le Poiré. Ce week-end est marqué par le 4e tour de la Coupe Nouvelle-Aquitaine, 3e tour de la Coupe des Deux-Sèvres, quelques matchs de championnat en retard, mais également par le 3e tour de la Coupe féminine Nouvelle-Aquitaine. En basket, Cholet reçoit Boulogne-Levallois ce soir, lanterne rouge de la Betic Elite avec 3 victoires seulement et 17 défaites. La trépidante saison passée avec Victor Wembanyama est bien loin, mais méfiance tout de même pour les Choletais. L'entraîneur de CB, Laurent Villa, au micro-colline de François Larue.
On est professionnel, on connaît la valeur d'un match, on sait qu'il faut se préparer en conséquence. Après je ne dis pas que tout le monde se prépare de la même façon avec le même niveau de concentration et d'envie de faire des efforts, mais globalement on est une équipe qui est professionnelle dans ce sens-là et qui ne va pas passer à côté d'un match.
Sur les baskets face à Boulogne-Levallois ce samedi soir, le match débutera à 18h30 à suivre en direct ici même. Les commentaires seront assurés par François Larue et Julien Laffa. Toujours en basket au National 2 masculine, déplacement de l'Aisnior à Montaigu. Chez les filles en National 3, déplacement de Bressuire à Fétia, de Chauray aux Herbiers. En handball en D2 féminine hier soir, les Celloises étaient en déplacement à Clermont. Des Sud-Sévriennes qui se sont faites peur mais qui ont fini par s'imposer de 2 buts 26 à 28 en National 3 féminine. Praec reçoit Lezay. Un petit mot de volleyball en National 2 masculine avec le déplacement du VBP Niort à Saint-Avertin. Du rugby en National 2, Niort demain sera opposé à domicile à Salles. En Fédéral 3, match à domicile pour Partenay face à Puy-le-Bourg. Chauray se déplace à Saint-Herblain et en Régional 2, Nouvelle-Aquitaine. Déplacement également du COB à Villeneuve. Premier résultat demain dimanche dans SMD à partir de 10h. SMD que j'aurai le plaisir de vous présenter avec mon complice Jean Grelier.